VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 25 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebudia
et Eric Manirakidza.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, les militaires prennent le pouvoir et renversent le président Marc Roch Christian Kabore.
Au Cameroun, la bousculade devant le stade d'Olembe à Yaoundé a fait 8 morts et une centaine de blessés.
En Gambie, 2 soldats sénégalais du contingent de la CDAO tués lors d'un accrochage avec des rebelles casamancés présumés.
Washington a placé 8500 militaires en état d'alerte pour un éventuel déploiement au sein des troupes de l'OTAN dans le cadre de la crise ukrainienne.
Et nous retrouverons Emmanuel Jules Tap pour son journal de la CAF.
Voilà quelques-uns des titres de cette édition.
Des militaires en uniforme ont annoncé hier lundi à la télévision publique avoir pris le pouvoir au Burkina Faso et chassé le président Marc Roch Christian Kabore, plongeant dans une nouvelle crise ce pays sahélien miné par d'incessantes attaques djihadistes. Le MPSR, Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de Monsieur Marc Roch Christian Kabore, ce 24 janvier 2022, a annoncé le capitaine Kader Ouédraogo, entouré d'une quinzaine de militaires à la télévision.
Conséquence de ce coup de force initié dimanche par des mutineries dans des casernes du pays, les frontières terrestres et aériennes ont été fermées à partir de minuit, le gouvernement et l'Assemblée nationale dissous et la Constitution suspendue.
Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h locale étant universelle sur tous les territoires, a poursuivi Kader Ouédraogo, lisant un communiqué signé du leader du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, commandant de la 3e région militaire, qui apparaît comme le nouvel homme fort du pays. Le MPSR s'est engagé lundi à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous.
Les réactions à ce coup d'État au Burkina Faso se poursuivent. Washington et les Nations Unies condamnent le putsch qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans un communiqué publié lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement le coup d'État militaire commis au Burkina Faso, appelant leurs auteurs à déposer les armes et à protéger l'intégrité physique du président Roch Marc Christian Kabore. Le porte-parole de l'organisation, Stéphane Dujarric, a rappelé qu'Antonio Guterres, qui dénonce régulièrement l'épidémie de coup d'État qui touche le monde aujourd'hui, suit les développements au Burkina Faso avec une profonde inquiétude. Les États-Unis ont quant à eux appelé lundi l'armée à libérer immédiatement le président Roch Marc Kabore et à respecter la Constitution et les dirigeants civils du pays. Washington exhorte toutes les parties à maintenir le calme et à rechercher le dialogue pour résoudre leurs griefs. Même réaction de l'Union européenne qui demande aussi la libération du président Kabore. L'UE rappelle son attachement au respect des institutions républicaines et de l'ordre constitutionnel. Plus tôt, alors que la situation n'était pas encore très claire, l'Union africaine avait demandé à l'armée nationale et les forces de sécurité à assurer l'intégrité physique du président Roch Marc Christian Kabore et de son gouvernement.
Nous reviendrons sur le Burkina Faso en seconde partie de cette édition avec d'autres réactions et des analyses.
Maintenant. Maintenant, la CAN, le Cameroun et la Gambie vont disputer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après leur victoire d'hier face à la Guinée et aux îles Comores. De nouveaux qualifiés seront connus ce mardi à l'issue des confrontations Sénégal-Cap-Vert et Maroc-Malawi de Yaoundé. Pour le journal de la CAN, Emmanuel Jules Ntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Décimé par des cas de Covid-19, privé d'un gardien de métier dans le 11 entrant, réduit à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes de jeu suite à un carton rouge, les îles Comores n'ont pas démérité face au Cameroun. Leur gardien, d'un jour, a même réussi l'exploit d'enrayer des occasions nettes de but. Le Cameroun a néanmoins profité de cette supériorité numérique pour inscrire deux buts victorieux, signés Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. Les îles Comores héroïques vont réduire le score sur un coup franc magistral à moins 9 minutes de la fin du match. L'entraîneur des Lions, indomptable, Antonio Conceição, ne cache pas son insatisfaction.
Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette rencontre et on a eu des comportements qui étaient différents à ce qu'on s'attendait. Donc ça a été un match très instable.
Lors du match Cameroun-Îles Comores, une bousculade, selon les témoins, a eu lieu à l'une des entrées du stade d'Olembe. Dans une déclaration transmise à la presse, la CAF dit enquêter sur la situation afin d'obtenir plus de détails sur ces incidents. Son secrétaire général Véron Mosongo Omba a été dépêché au chevet des victimes admises dans les hôpitaux de Yaoundé, a renseigné hier la direction de la communication de la CAF. À Bafoussam, la Gambie s'est déjouée de la Guinée 1-0 et réussit l'exploit de se qualifier à un quart de finale de la CAN pour une première participation. À Medine Si.
La rencontre a été longtemps indécise et pauvre en occasion. Les Gambiens ont su compter sur l'adresse de Moussa Barrow pour ouvrir le score à la 71e minute et compter sur la solidarité défensive pour tenir le score jusqu'à la fin de la rencontre. Ceci malgré l'expulsion de Youssoufa, la Guinée de Kabadiawara, pour son part trop entreprenante, n'a pas su saisir sa chance avec un but refusé, puis un poteau et une barre dans le temps additionnel. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Ibrahima Koné a été lui aussi exclu dans les dernières secondes de la rencontre qui s'est terminée finalement à 10 contre 10. Bafoussam, Amédine Si, pour la Voix de l'Amérique.
On prend la direction de Libreville pour retrouver Jules Valentin Ngoué avec son coup de sifflet du jour.
Bonjour. Après l'affiche équilibrée Gabon-Burkina Faso, où les chances de gagner étaient égales, voici la Gambie qui, dans la foulée de la Tunisie la veille, poursuit le bal des outsiders en jouant tout simplement à la Gambienne. Une équipe pratiquement imperméable en défense où elle n'a encaissé qu'un pénalty contre le Mali en 4 matchs. Un bloc avancé et solidaire qui plie mais ne rompt pas, multipliant les victoires dans les duels aériens et les interceptions au sol. Mais une équipe qui sait aussi endormir l'adversaire avant de planter le compte fatal sur une occasion tardive. Ce protocole a été le même face à une pétillante formation guinéenne, plus outillée, mais pas assez tueuse pour gagner la partie. En deuxième heure, le Cameroun a réussi à s'imposer dans le match piège proposé par des Comoriens au culot technique insolent. Les joueurs des îles ont privilégié la prudence en première période avant de se lâcher en deuxième mi-temps pour inverser un score défavorable. Les Camerounais ont eu le mérite d'élever leur niveau de jeu et conserver leur avantage. Ainsi, à mi-parcours de ces huitièmes de finale, l'impression générale reste la même. La révolte des mâles cotés se poursuit. À bientôt.
Les huitièmes de finale se poursuivent ce mardi. Les Lions de la Teranga du Sénégal accueillent à Bafoussam le Cap Vert, un match que le coach du Sénégal dit avoir préparé minutieusement. À Liou Cissé, au micro d'Amédine Si.
Nous avons bien travaillé vendredi. Ça a été la séance la plus difficile en réalité de la semaine. On a travaillé en puissance. Hier aussi, on a bien travaillé. Je crois qu'on a pu profiter vraiment de l'ensemble de tout notre effectif pour pouvoir vraiment faire deux séances très 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 intéressantes. Donc oui, le Cap Vert, on connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer 4 voire 5 fois. La dernière fois qu'on les a joués, c'était au mois de juin. Certes, c'était un match amical, mais ce fut un match quand même assez âpre. On sait que c'est un derby. Une très belle équipe,
Voilà, donc elle n'est pas là par hasard. Une équipe qu'on respecte, et l'étroitité qu'il y a entre le Cap-Vert et le Sénégal donne encore beaucoup plus de saveur à ce match-là.
À Yaoundé, le Maroc sera opposé au Malawi. Voici les premières affiches des quarts de finale. Gambie-Cameroun, Burkina Faso-Tunisie. C'est la fin de ce journal de la CAN. Amédine Sy, Emmanuel Chimita, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Signalons qu'une bousculade à l'entre-sud du stade d'Olembe à Yaoundé a fait 8 morts, dont un enfant, avant le match qui opposait hier soir le Cameroun aux Comores. Selon un rapport préliminaire du ministère de la Santé, que s'est procuré l'AFP. Selon les autorités sanitaires, une cinquantaine de personnes ont été blessées.
Oui, une cinquantaine et non pas une centaine, comme je l'ai dit. Un bébé aurait également été piétiné par la foule. Selon le ministère de la Santé, le nourrisson, immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé, se trouve dans un état médicalement stable. La CAF, Confédération africaine de football, qui organise la compétition phare du continent, a de son côté dépêché son secrétaire général au chevet des victimes admises dans les hôpitaux de Yaoundé, selon un communiqué. La CAF enquête actuellement sur la situation afin d'obtenir plus de détails sur ces incidents, a poursuivi la Confédération.
Deux soldats sénégalais de l'ECOMIG, la mission de la CDAO en Gambie, et un rebelle casamancé présumé ont été tués lundi dans un accrochage dans l'ouest de ce pays, a indiqué l'état-major sénégalais.
Et puis, disons qu'au Soudan. Maintenant, dans le reste de l'actualité, au Soudan, 3 manifestants ont été tués lundi dans de nouveaux rassemblements contre le putsch et le pouvoir militaire. La mobilisation populaire ne faiblit pas en dépit d'une répression meurtrière et de nouvelles rafles, Mohamed Oumfa.
Lundi à Khartoum, les manifestants ont tenté de nouveau, sous les tirs de grenades lacrymogènes des forces de sécurité, de converger vers le palais présidentiel où siège le général Abdel Fattah al-Burhan, le dirigeant de facto du pays. Dans la capitale, un manifestant a été tué d'une balle réelle dans la poitrine. Deux autres ont trouvé la mort après avoir été touchés par une balle à la tête à Wad Madani, à 200 km plus au sud, selon le comité central des médecins proches de la contestation. Comme à chaque fois, à la veille des manifestations, les forces de sécurité ont procédé à des rafles nocturnes, arrêtant des membres des comités de résistance dans différents quartiers de Khartoum, selon ces comités, véritable colonne vertébrale de la mobilisation. La communauté internationale continue à réclamer un dialogue pour sortir de la crise. Des responsables de l'ONU rencontrent depuis plusieurs jours politiciens, militants et représentants corporatifs, sans pour autant pouvoir les amener à discuter ensemble.
Eh bien, les États-Unis ont placé jusqu'à 8500 militaires en état d'alerte qui pourraient être déployés au sein des troupes de l'OTAN en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ce qu'a annoncé hier le Pentagone. Les détails avec Jacques Aristide.
Aucune décision n'a été prise sur un déploiement dehors des États-Unis pour l'instant, précise John Kirby, le porte-parole du Pentagone. Le niveau d'alerte élevé permet de préparer les troupes à être prêtes à partir en 5 jours plutôt que 10. Elles interviendraient en soutien de la force de réaction rapide de l'OTAN qui compte 40 000 militaires. Nous ne disons pas que la diplomatie est morte, souligne John Kirby, mais il est très clair, ajoute-t-il, que les Russes n'ont actuellement pas l'intention d'amorcer une désescalade. Washington assure également n'avoir aucune divergence avec les Européens au sujet des sanctions inédites à infliger à la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, ni au sujet de l'urgence de la menace. Il n'y a pas d'ambiguïté, a dit hier le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, alors que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé à éviter les réactions alarmistes. Ned Price a déclaré que le président Joe Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken étaient en contact avec les dirigeants européens pour mettre au point la réponse écrite aux exigences de Moscou que Washington doit remettre cette semaine aux Russes. Pour sa part, le chef de l'État français Emmanuel Macron compte proposer un chemin de désescalade à Vladimir Poutine lors d'un entretien dans les prochains jours.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sibouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le Burkina Faso, le coup d'État est désormais consommé. Un groupe de militaires a donc démis Roch Kabore de ses fonctions et pris le pouvoir. Regroupé au sein du MPSR, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, la junte a à sa tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damipa. Retrouvons notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
L'attente a été longue, l'annonce faite à la télévision nationale. Un groupe de militaires s'adresse au Burkinabé, un jeune capitaine qui annonce la fin du pouvoir Kabore.
Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation,
capitaine Kader Ouedraogo, porte-parole de la junte,
de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc-Christian Kabore à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc-Christian Kabore ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté.
Dans les rues de Ouagadougou, c'est comme une délivrance.
Aujourd'hui, nous sommes sortis pour soutenir l'armée, pour dire merci encore, un grand merci à l'armée pour le travail qu'ils ont abattu. Ils ont soulagé toute la nation.
La population a libéré Roch Marc-Christian Kabore. La lutte continue.
On a vu que non, et Roch, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. À partir du moment où il ne peut pas, l'armée doit prendre ses responsabilités pour amener la paix dans ce pays.
On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on a confiance à l'armée burkinabé, donc s'ils ont pris leur décision, c'est que c'est la bonne. La population souffre, les Burkinabés souffrent, l'Afrique souffre. Il était temps en fait. Ils vont gérer ça, vite fait et bien fait aussi.
Si cela peut apporter un vrai changement dans les choses, dans les situations, je ne trouve pas ça anormal quoi.
À la tête de ce mouvement qui a renversé Roch Kabore, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, 41 ans, ancien élément de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle. Il a quitté cette grade prétorienne de Blaise Compaoré après les mutineries de 2011. Après le drame d'Inata, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été nommé commandant de la 3e région militaire. La nouvelle junte a suspendu la constitution, dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu a été instauré de 21h à 5h du matin. La situation actuelle dans la capitale burkinabé est plutôt calme, alors que les partisans de Roch Kabore qualifient le coup de force d'antidémocratique et appellent les populations à la défense des institutions du pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Loin de la capitale Ouagadougou, les populations de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, ont suivi de bout en bout l'évolution de la situation. Inquiètes sont certaines, optimistes sont d'autres. Des réactions vraiment diverses à Bobo-Dioulasso, nous dit notre correspondant sur place, Alidou Ouedraogo.
Nous vivons une situation qui était prévisible au vu du déroulement des événements ces derniers moments. Voilà, on savait qu'il y avait un ras-le-bol généralisé, que ce soit au sein de l'armée ou au sein de la population. Voilà, parce que depuis un certain temps, non seulement le pouvoir en place n'arrivait pas à satisfaire correctement aux attentes de la population, surtout sur le plan sécuritaire.
Ce que nous pouvons dire, au sein de l'armée, eux, ils n'ont qu'à se comprendre d'abord. C'est là-bas la base. Dans l'armée, ça ne va pas.
Nous tous, nous condamnons un coup d'État, mais à un moment donné, c'est plus que nécessaire. Parce que la situation actuelle du pays, là, nous sommes d'accord même que les militaires prennent le pouvoir. À l'allure où ça va, voilà, nous sommes très inquiets. Le Burkina est totalement encerclé. Voilà, si on peut prendre l'exemple du Mali, c'est pas un mauvais exemple.
Nous croyons effectivement que le coup
coup d'État là est une réalité.
Vraiment, on vit dans la terreur. Nous avons peur. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos maris. Nous voulons vraiment une solution.
Si ces gens allaient arriver pour nous donner la paix, que Dieu nous donne, c'est notre souhait le plus absolu. On veut que le pays soit calme, le pays soit stable.
Je pense que c'est même bien, c'est pour trouver une bonne solution à nos différents problèmes qui existent. Et Dieu nous aide seulement que ça se passe dans de bonnes conditions.
Pour l'analyste politique Siaka Koulibaly, joint à Ouagadougou par Yacouba Ouédraogo, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a l'avantage de regrouper toutes les composantes des forces de défense et de sécurité. Siaka Koulibaly.
Ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que le comité qui a lu la proclamation est composé de représentants de presque toutes les unités de l'armée nationale. Ce qui est une particularité assez importante à remarquer. Cela suppose qu'il y a une sorte d'unanimité, une sorte de cohésion dans les forces armées nationales autour de l'action qui vient d'avoir lieu.
L'armée dit que le président Roch Kabore est en lieu sûr. La communauté internationale fait pression. Les États-Unis appellent à sa libération. Faut-il s'attendre à ce qu'il soit libre dans les jours à venir?
Oui, tout à fait. C'est possible qu'il soit libéré. On note aussi que les appels à sa libération n'impliquent pas sa restitution au pouvoir. Donc ça peut se négocier assez facilement. Et je pense que même dans le cadre de l'esprit d'apaisement que les militaires cherchent à démontrer, il est fort possible que l'ex-président Kabore soit relaxé assez rapidement.
Les militaires disent être là pour restaurer et sauvegarder. Selon vous, restaurer et sauvegarder quoi?
Pour la sauvegarde, on comprend qu'il s'agit du territoire national qui est déjà largement entamé par les groupes armés terroristes. Donc la sauvegarde va porter sur l'action militaire contre les groupes terroristes. La restauration, quant à elle, a un contenu beaucoup plus politique, à savoir qu'il doit s'agir de restaurer la démocratie. Ce dont eux seraient atteints en termes de participation des différents composants de la vie nationale au processus de décision. Mais aller au-delà, jusqu'à se restaurer également cette particularité que le Burkina Faso a d'être le pays des hommes intègres, donc de restaurer les valeurs originelles qui font le peuple burkinabé. Donc ce sont des points sur lesquels on va effectivement attendre le comité militaire, voir s'ils vont prendre les mesures qui vont dans le sens de l'objectif qu'ils se sont fixés eux-mêmes.
C'est vrai que la tension était montée depuis un certain temps, depuis notamment l'attaque d'Inata. Il y a eu beaucoup de pression sur le président Roch Kabore. Il y a eu ces manifestations pour plus de sécurité de la part de certaines Burkinabés, manifestations interdites. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vu cela venir, avec récemment également la tentative de putsch dont Afrika le pouvoir?
Ceux qui sont à l'extérieur déjà s'attendaient un peu à ce type d'événement sur le Burkina Faso. Et à l'intérieur, je pense que ça ne surprend pas grand monde, y compris dans l'entourage immédiat du président du Faso, l'ex-président du Faso, Roch Kabore. À la mesure où plusieurs indices ont démontré une certaine dégradation de la situation sécuritaire avec une implication sur l'humeur au sein de l'armée qui se complexifie avec des mouvements sociopolitiques au sein de la société civile, des partis politiques d'opposition. Et dans le temps, plusieurs facteurs se sont combinés pour donner la situation qu'on a connue ces deux derniers jours.
On voit ce qui se passe un peu au Mali. Est-ce qu'il faut s'attendre à des prises de position de la part des militaires comme ce qui se fait à Bamako?
Je pense que les deux pays se retrouvent à peu près dans la même situation. Ils sont en violation des normes des institutions internationales. Les militaires au pouvoir cherchent à donner des gages de bonne foi, leur intention de restaurer l'ordre constitutionnel le plus vite possible et se trouvent de ce fait parfois en difficulté avec les représentants de la communauté internationale. Pour le cas du Burkina, ils n'ont pas encore fixé un délai, donc il n'y a pas de conflit pour le moment avec la communauté internationale. On attend de voir le chronogramme que le comité patriotique pour la solidarité et la restauration va proposer avant qu'on entende les réactions de la part de la communauté internationale.
L'analyste politique Siaka Koulibaly, joint à Ouagadougou.
Abdourahmane Tia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, bruit de bottes à Ouagadougou. Des soldats se sont mutinés au cours du week-end, demandant le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes. Une nouvelle incursion des militaires dans le champ politique sous-régional qui inquiète la communauté internationale. Qu'est-ce qui explique ce nouveau coup de colère des militaires au Burkina Faso? Doit-on s'attendre à une plus grande présence des militaires dans le champ politique régional? La persistance des attaques djihadistes risque-t-elle de fragiliser davantage les systèmes politiques dans le Sahel? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Guinée, plusieurs dossiers de détournement présumés de deniers publics ont été présentés à la presse par la justice à Conakry. Il s'agit des premiers audits des militaires au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Ces dossiers seront instruits devant la Cour des répressions des crimes économiques et financiers. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Les 19 membres de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, ont été officiellement installés vendredi à Conakry. Créée le 2 décembre 2021, cette cour doit lutter contre la délinquance financière. À peine installée, la CRIEF essuie les critiques de ce retraité.
Il y a des vieux magistrats qui sont retraités. J'aurais souhaité voir la tête de ceux-ci là-bas. Mais il y a encore beaucoup de jeunes qui sont très faciles à être intimidés. Donc je n'y crois rien. Et puis la mafia guinéenne, elle est implantée de façon effrayante. Moi, je n'y crois rien.
Contrairement à cet ancien fonctionnaire, pour l'analyste de l'actualité guinéenne Talibé Barry, la création de la CRIEF doit marquer la rupture avec l'impunité en Guinée.
C'est une grande première qu'une telle institution entièrement dédiée à la lutte contre la corruption soit créée, parce que vous le savez, depuis plus de 2 décennies, il a été prévu la création d'une haute cour de justice qui n'a jamais vu le jour. Donc cette CRIEF vient combler un vide. C'est à la fois un instrument pour faire rendre des comptes à ceux qui sont coupables de mauvaise gestion, de mal gouvernance, mais aussi c'est un instrument de dissuasion, comme pour dire que la Guinée doit rompre avec les pratiques de mal gouvernance.
Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a instruit le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, d'engager une poursuite judiciaire dans 15 dossiers de détournement de deniers publics au sein des régies financières de l'État. Quelques réactions dans les rues de Conakry.
Il ne faut pas que les dossiers soient politiques. Il faut rester dans le cadre juridique. Vérifier ce qui est en train de se faire, ce qui a été fait, on peut savoir maintenant qui a fait quoi. C'est juste ça.
Je pouvais croire en ça si on avait mis le détournement des 8 tonnes d'or que Denis avait découvert. Mais tout ça, il y a un ancien opposant, c'est lui qui avait audité ça. Pourquoi il n'a pas fait sortir ça? Attends, on attend jusqu'aujourd'hui. Moi, je n'y crois pas en tant que citoyen de la République.
Parmi les dossiers transmis à la CRIEF, il y a celui de Dioma, une entreprise détenue par l'ancien intendant à la présidence sous Alpha Condé. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
À votre avis, ce mardi, les militaires au pouvoir au Burkina Faso, ce qui avait débuté le dimanche par une mutinerie pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens face aux terroristes, s'est finalement mué en coup d'État. Le pouvoir de Roch Marc Christian Kabore est le troisième gouvernement civil renversé dans l'espace CDAO en moins de 2 ans. Que pensez-vous de la prise du pouvoir par les militaires au Burkina? Réagissez sur notre page Facebook et rendez-vous également à 18h05 temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale d'aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidibia et Eric Manirakiza. À la mise en onde, Lionel Gahima. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.